René Leys. Mai 1911. Ce grand jour, qui s'opalise avec douceur à travers le papier translucide de ma maison sans fenêtre et si doucement lumineuse, me dépouille et me lave de mes rêveries d'hier. Ce grand jour est plus distant d'hier et de cette nuit qu'un lendemain n'est obligé de l'être. Et voici, comme une potion sans amertume, le débit et la faconde empressée de Maître Wang, qui m'apparaît dans ce grand jour, juste à l'heure de tous les autres. Il n'y a donc rien de changé. Au travail, et le temps perdu à rejoindre. Cette fois, je n'en laisse plus rien échapper. Maître Wang, je désirerais apprendre aujourd'hui quels sont les titres et les charges de ceux qui habitent le dedans. Contre tout usage, je suis allé droit où l'on sait qu'il faut ménager tant de détours. Maître Wang n'en prend aucun. Sur le ton même dont il énumère les 18 provinces de l'Empire, les 5 relations ou les 36 vertus obligatoires, il récite. Dans le dedans habite l'empereur, dont le nom de respect est Fils du Ciel, et le nom, pour obtenir une grâce, Maître des 10 000 âges. Bien, c'est noté. Caractère, romanisation et traduction. Et puis, ensuite, il y a l'impératrice, dont la désignation littéraire est Palais du Milieu. Quand il existe à la fois 2 impératrices de rang égal, l'une s'appelle Palais de l'Est et l'autre Palais de l'Ouest. Le titre de respect, dans les 2 cas, est Mère de l'Empire. Bien. Au-dessous de l'impératrice ou des impératrices, il y a les concubines impériales de premier rang. Au-dessous, de deuxième rang. Au-dessous, de troisième rang. Bien. Ce protocole arithmétique est assez peu mystérieux. Et nous descendrons jusqu'au numéro. Maître Wang ne veut rien omettre, repart du 4 et s'arrête au 5. Et au-dessous, il y a les dames d'honneur de l'empereur. Elles peuvent être élevées au rang de concubines du 5e rang, qui peuvent atteindre le 4e, qui... Bien, bien. Toutes ces réponses sont immédiates, claires, un peu trop claires. Il ne se dérobe pas. Il ne semble rien me cacher. Il parle comme un fonctionnaire, récite le nom de ses collègues, des sous-chefs dont il vise l'emploi, des directeurs qui le proposeront. C'est ainsi que j'apprends, en bon ordre et de la même voie méthodique, la classification des princesses impériales, des époux des dites princesses, puis les couleurs, champs et bords, des 8 bannières, toute l'héraldique des conquérants mandchous, et ce beau titre, prince au chapeau de fer. Maître Wang cite enfin une curieuse caste dont je comprends peu l'origine et l'emploi. Ce sont les Paoyi, les esclaves. Et, malgré la servilité du nom, je les vois figurer parmi les conquérants. Ils sont du sang des 8 bannières. Celui qui les mène, choisi parmi eux, est un prince, esclave aussi. Maître Wang daigne expliquer. Ces gens-là, serfs coréens ou mongols des Mandchous d'autrefois, ont été entraînés avec leur maître à la conquête de la fleur du milieu. Ils l'ont conquise. Ils sont maîtres maintenant, à leur tour, et anoblis. Quelle noblesse en effet, et quelle fière allure! Les Mandchous ont fait maître sur leurs nouveaux esclaves chinois, ceux qui les avaient bien servis dans les temps difficiles. Du moins, je crois avoir compris. Je note avec soin Paoyi, esclave, Paoyi Tsanling, chef des Paoyi, Paoyi Tsoling. Entrez, presque en même temps que le boy débouche René Leys. C'en est fait. Mais deux professeurs sont en présence. À l'arrivée de l'hôte inattendu, le vieux Wang, levé soudain, a fléchi les jambes, touché la terre du poing droit dans un salut mandchou non chinois, parfait d'aisance et de souplesse. L'autre, avant même d'accepter la main que je lui tends, a répondu, comme d'instinct, par le même geste et avec la même aisance, la même souplesse polie. Puis, tout d'un coup, il s'excuse. Il paraît bouleversé, il en a des larmes aux yeux, et il reste là, sans rien dire. Je veux aussi m'excuser. Ce brave homme de chinois n'est pas un professeur en titre, un ami indigène, et qui m'était recommandé chaudement. Je termine. D'ailleurs, je vais le congédier. Inutile, reprend René Leys. Il n'entend pas un mot de français. C'est vrai. Le brave homme s'est de lui-même retiré discrètement derrière des feuillets de livres. « Ah bien !» dit la voix réellement émue de René Leys. « Il m'arrive des choses ennuyeuses. Hein ? Mon père veut quitter Peking. Je m'attendais à bien pis, ou à bien mieux. Il prétend avoir des affaires qu'il appelle en France, et il va y rester 4 ou 5 mois. Alors, je ne peux pas l'accompagner. Pourquoi ? Évidemment, il a sa chaire à l'école des nobles, sa situation. Ce bon élève de seconde moderne tient ici la place de quelques agrégés. Il devine. Non, ce n'est pas mon poste de professeur, mais c'est mon père qui ne veut pas que je l'accompagne. Il me semble avoir raison, ce père-là. Mais la figure du fils a l'air de lui reprocher tout autre chose. À travers beaucoup de réticence, timidité peut-être. Oui, car il s'exprime ensuite plus à son aise. J'apprends des dessous de boutique auxquels j'étais loin de m'attendre. Le père épicier fait argent de tout, veut céder local, meubles et immeubles, et le reste, et enverra bel et bien son fils coucher où il voudra. Ce père ingrat, ce marchand économe, aurait même ajouté « Ton chinois va te servir à quelque chose. Tu vas pouvoir louer un yamen dans la ville tartare et y recevoir tes amis. » « Vous avez donc des amis chinois ?» René Leys, rougissant à l'improviste, avoue « Ce n'est pas ça qui m'ennuie. Mais que voulez-vous ? Je n'ai jamais habité seul. » Je le regarde. C'est vrai, il a 17 ou 18 ans d'âge réel. Une figure et des yeux plus anciens, indéfinissables. Ah, vous n'avez jamais habité seul. Oh, surtout, je n'ai jamais couché ailleurs que chez mes parents. Il hésite. Oh, je n'aime pas, je ne parviens pas à m'endormir. Moi, je n'y peux rien, pas plus qu'à ce départ d'un père. René Leys me regarde à peine. J'ai peur qu'il ne m'arrive encore ce qui m'est arrivé quand j'étais jeune. Quoi ? D'être mordu. Mon père se moque toujours de moi quand je ne lui en parle plus. J'ai été mordu au doigt une nuit, à ce doigt-ci.
Par qui ?
Par qui ? Oui, par qui ? Il change de voix et, plus bas, par qui ? C'est vrai, je ne me l'étais jamais demandé. Enfin, j'ai été mordu. J'ai sauté de mon lit. J'ai entendu sonner à la porte. J'étais seul. J'ai cru que mes parents revenaient de voyage. Ma mère n'était pas morte à ce moment. Je suis allé ouvrir. J'ai vu une grande flamme.
« C'est la flamme qui avait sonné !» dis-je en riant avec sarcasme.
Je n'aime pas ces histoires de revenants. La péripétie est courue et connue d'avance. On a 20 explications, toutes fausses, à la clé. Mais René Leys ouvre des yeux voilés, embus d'une peur véritable. Évidemment, ce garçon a vu dans son enfance
d'assez troublantes apparitions, vraies ou fausses. Il ne regarde point du même côté que moi dans ce monde. Car maintenant, par-dessus mon épaule, il donne toute son attention à ce qui se passe derrière moi, et je voudrais bien me retourner. Enfin, j'accepte, sans l'approuver, sans le féliciter, qu'il redoute la solitude. Et soudain, je m'explique ces changements d'allure et de voix quand la nuit se fait. À coup sûr, ce professeur est peu banal. Une idée me vient, pleine de curiosité pratique. Ma maison chinoise est vaste, ses bâtiments disséminés dans leur série de cours carrées. On lui fera mettre un lit de voyage dans les pavillons de l'Ouest. Il aura son couvert à ma table, et j'aurai à mon service, ou presque, un excellent professeur. Assez occupé au dehors, il ne m'encombrera guère. Sympathique, ce garçon-là, très sympathique, tout d'un coup, malgré ses gaucheries, ses enfantillages, ses épiceries, ses épouvantes. Je lui offre donc à coucher et à manger chez moi. Et cela est proposé, accepté, conclu, ordonné, en moins de mots qu'on ne peut dire. En vérité, tout cela semblait préparé d'avance. En me quittant, il n'a rien dit de plus que tous les jours. Il sait donc être réservé. Ceci, encore, est très bien. 11 mai 1911. Journée sotte. Maître Wang, comme vidé tout d'un coup de ce qu'il avait à me dire sur le palais, se dégonfle, s'épuise, se répète, revient à son catalogue annuaire des fonctions, à son numérotage de princesses, concubines et suivantes. J'ai très envie de lui demander impoliment quel était le chiffre ordinal de sa propre épouse au palais. 33e laveuse de vaisselle ou 95e suppléante suiveuse en expectative d'emploi? Je rabats toute ma mauvaise humeur sur mon excellent voisin Jarignou. Je lui dois vraiment la visite que je lui fais, et dont c'est la seule raison d'être, car j'ai bien réfléchi sur son cas. Décidément, il a fort mal joué en se faisant chinois. Au moins, qu'il serve à quelque chose. Avec une grande bonhomie, un air absent, je ramène entre nous la personne du petit Belge qu'il a si carrément refusé de reconnaître, l'autre jour, chez moi. Voici que, tout d'un coup, le voisin se met à le connaître. Il le connaît certes bien, puisqu'il en dit aussitôt « pique pendre » ou « peu de choses après tout ».« Monsieur, c'est un fameux noceur !»« Oh, par exemple !» J'entends encore la candide voix de René Leys, qui a si peur de coucher hors de sa famille. Ou bien qu'il s'arrange avec sa réputation. Cette affaire à lui. Je répète à voix haute cette fois. Cette affaire à lui. Mon brave homme de voisin semble vexé. Il attendait sans doute la réponse classique. Il s'amuse, c'est bien de son âge. Je suis sûr qu'il l'attendait. Mais le silence le rend tout d'un coup moraliste. Ce jeune noceur, explique-t-il, a un père. Ce père fut un homme marié. Actuellement, c'est un veuf. Un homme respectable. Et jamais lui, mon voisin, l'ami du père, jamais il ne dira tout ce qu'il sait. Je laisse aller. Ce qu'il sait se réduit à ceci. René Leys fréquente assidûment toutes les nuits les maisons de thé à Tianmenhuai. Il s'arrête. Vous savez ce que c'est? Tianmenhuai? Je vois ça d'ici. Et ensuite? Ensuite, mon moraliste change de ton et s'en vient de lui-même à excuser celui qu'il chargeait tout à l'heure. René Leys, paraît-il, a passé par une enfance négligée. Il a eu le malheur, on n'ose jamais appeler ceci d'un autre nom, il a eu le malheur de perdre sa mère à l'âge où l'on refait ses premières dents. Je ne saurais donc pas si cette mère valait la peine d'être gardée. Elle était française. C'est un fait. Peut-être du Midi. Et ceci expliquerait ce teint mat et ses beaux grands yeux. Son père est un marchand wallon. Quant à lui, il a été un peu laissé à lui-même, c'est-à-dire mis au lycée en Belgique, où il a pu atteindre à la seconde moderne. Puis, entraîné par les affaires paternelles jusqu'ici, où il est arrivé à l'âge de 15 ans et s'est trouvé tout d'un coup dépaysé, désœuvré. C'est pour cette unique raison qu'il s'est donné aux Chinois. Il faut avouer qu'il le parle bien. En effet, il a une extraordinaire facilité à se servir de tous les mots dans toutes les langues. M. Jarignoux, qui ne semble pas aussi bien doué, s'arrête court, se demande s'il n'en a pas trop dit sur ce jeune homme, et puis se récuse. Après tout, je ne le connais pas. Mais son père, monsieur, ah, quel brave homme! Nous parlons ensuite d'autre chose. Pas longtemps. Je ne me sens plus très droit sur la route vers les hauts fonctionnaires, et les affaires de mon voisin tourneraient aisément autour des miennes. La visite est rendue, j'ai été poli. 12 mai 1911. J'y comptais presque. Il m'arrive. J'avoue avoir regardé à regret son couvert vide ce premier soir. J'ai à peine eu le temps de lui faire dresser un lit. Il est là. Mais je ne l'attendais plus si tard. Rien n'est changé dans la beauté de la nuit. Comme le printemps se gonfle tout d'un coup jusqu'à l'été, j'habite, et pour longtemps, la plus grande de mes cours intérieures. J'ai dîné dans cette cour, sous le carré du ciel crépusculaire. J'ai lu et j'ai écrit un peu, et surtout renversé sur la chaise de jonc, j'ai regardé, sans penser à rien de certain, le plafond cave étoilé au-dessus de ma face. Il est là, brusquement arrivé, et calme, comme si le rectangle de mes murs l'abritait et le rassérénait. Il s'est assis auprès de moi. Je devrais évidemment chercher des phrases à dire. Je ne dis rien. Je goûte avec sécurité, comme lui, la quiétude de géométrique de ma maison. Il passe parfois au dehors un vendeur de fromage ou de pâtes qui jette un extraordinaire cri sur un mode angoissé, résolu par un retour étonnant et triomphant à la tonique juste. Et tout ça pour vendre du fromage de haricots et des pâtes graisseuses. Mais son cri se mélange à l'odeur de ce lotus à peine entrouvert, triomphant aussi de l'eau sourde dans ma vasque de porcelaine au milieu de ma cour. Tout se fond et disparaît sous la pénétration de cette nuit. René Leys n'a rien dit encore. Quel à propos ! C'est à moi d'étoffer ce silence et ce noir. Mais non, je songe plus clairement et plus lucidement que le grand midi sur mes toits. Je songe qu'allongé, la tête ici et les pieds là, tout près de ce coin sud-est de la ville tartare, je me trouve exactement étendu du nord au sud. Comme toutes les maisons, les palais ou les huttes de Peking, ma maison, ma hutte ou mon palais est très astronomiquement orientée, occidentée, dressant ses bâtiments majeurs exactement face au midi. Ceci est une règle impériale entre toutes, que l'empereur soit nommé celui qui est face au midi. Je me sens ainsi, non point participer à cette vie pouilleuse et unanime, des vers grouillant sur le fumier ou des ténias intestins, mais vivre parallèlement, dans toute la rigueur froide et mesurée du terme, parallèlement à la vie cachée du palais, comme moi, face au midi. Il me semble que l'heure est venue de prier René Leys de me dire comment il a pu réussir à le voir autrefois. Lui, le prisonnier des palais cardinaux. Est-ce à propos d'une audience? D'un sacrifice impérial au temple du ciel? Mais je sais bien que les rues sont toutes barrées. Enfin, et cette fois, je pense tout haut. Vous m'avez bien dit l'avoir vu. René Leys s'étire. Je crois bien qu'il se réveille, qu'il dormait paisiblement depuis une demi-heure. Pourtant, il répond sans hésiter, mieux que personne. Et puis, il parle avec douceur. Je l'ai vu. Je le voyais souvent, surtout dans la matinée, entre 10 heures et midi. Il était alors très éveillé, très intelligent. Il s'occupait vraiment des affaires. Il jouait ensuite avec ses femmes. Tiens, on m'avait dit... Il jouait avec ses femmes à des jeux innocents. Ainsi, une espèce de jeu chinois où l'on cherche à se toucher en courant, ou plutôt à n'être pas touché. On se met chacun à sa place. Dès qu'on l'a quitté, on peut être... Oh, c'est très chinois. Mais je me souviens que je jouais aussi à quelque chose du même genre à l'école moyenne de Terre-Monde. Et l'on criait « pousse !» et l'on n'était pas pris. Est-ce que lui criait aussi? Oh non! Il avait un autre moyen. Pourtant, il se fatiguait vite et ne courait jamais. Quand on le serrait de près, savez-vous ce qu'il faisait? Il s'asseyait tout simplement, n'importe où. Hein? Alors, toutes ces femmes tombaient à genoux devant lui. Hein? Évidemment. Croyez-vous qu'une seule eût osé rester debout devant l'empereur, assis, même n'importe où? Cela est péremptoire, cela est vu. Si jamais il me venait un doute sur l'entrée de René Leys au palais, une telle scène, posée comme il vient de le faire, l'abolirait à jamais. Il me revient donc aux lèvres cette question, toujours revivante au sujet de lui. Il est mort comme... Mais je la transforme habilement. Tout ce qui s'est passé là, à quelques années près, est évidemment d'un autre âge. Mais tout est fini. Le palais actuel est aussi muré que l'autre et ne contient plus qu'un grand vide et pas une majesté, pas de successeur, pas d'héritier, des simulacres, des altesses dont le titre de respect, si j'avais à les aborder, serait pour moi non plus « votre excellence », mais votre haute insuffisance. Ainsi le régent, qui pourtant est son propre frère, René Leys se réveille tout à fait. Le régent me paraît falot. D'abord, cela sonne assez mal à côté de trône. Le régent. Oh, je sais, il y a bien le petit empereur de 4 ans, encore moins de personnalité. Mais on doit compter avec l'âge. Ils avaient surtout le vieux Yuan, le plus fin, le plus fort, et ils ont failli lui couper la tête. Il est mort politiquement. René Leys ne prête aucune attention à Yuan, si connu des Européens cependant. L'ignore-t-il? Voyez-vous, je suis arrivé juste 3 années trop tard. La vieille impératrice est morte après 60 ans de règne. Lui aussi. Après 34 années de vie seulement. Et peut-on même dire de vie réelle? Je ne sais plus. Je ne veux plus savoir. Au fait, je suis bien démodé à m'inquiéter ainsi du palais. Il est déjà monument historique. Il n'enferme plus rien de vivant. Quelques eunuques, quelques femmes périmées, et parfois entre 2 et 4 au matin, le grand conseil avec ses princes fatigués. René Leys s'anime tout à coup. Mais le régent n'en parlait pas sans le connaître. Et de nouveau, de sa voix tiède et veloutée, il est presque aussi intelligent que son frère, lui, qui s'en est allé, montant au char du dragon, s'abreuver aux 9 fontaines. Ceci est dit avec respect, comme une citation chinoise. Le régent. Mais il ne désire qu'une chose, faire le bonheur de son peuple. Seulement, il ne sait comment s'y prendre. Il essaie de voir le peuple de près. Quelquefois, il sort sans aucune escorte. Une nuit qu'il était allé passer à Tianmenhuai. Tianmenhuai, c'est le dehors de la porte Tian. Oh, j'ai compris. Continuez. La porte doit être fermée à minuit. On venait de sonner la troisième veille. 2 heures du matin à l'européenne. Oui. J'étais avec lui. J'ai marchandé avec le portier, qui nous a laissé passer tous les deux, précisément, comme européens. Le lendemain, le portier s'est réveillé en prison. Oh, il faut de la discipline. Vous ne sauriez croire ce que le régent risque tous les jours, à 4 heures du matin. Quoi ? Sa réputation ? Sa vie ? Vous ignorez que tous les matins, à 4 heures, il quitte sa résidence. C'est vrai, pour présider le Grand Conseil. Vous connaissez le pont par où il passe ? Tout au nord de la ville tartare, derrière la porte postérieure. Et où mène ? Un pont mal pavé et assez inutile d'ailleurs. Je n'ai jamais vu comme en Chine autant de ponts passer sur aussi peu d'eau. Attendez les grandes pluies d'été, juin, juillet, et vous verrez, me promet René Leys. Toute la mer septentrionale vient couler par-dessous. Aujourd'hui, il est évidemment à sec, et c'est même ce qui facilitait l'attentat. Un attentat ? C'est pourtant vrai. J'ai lu avant-hier, dans les feuilles publiques, que le régent se rendant comme chaque matin de sa résidence au palais avait échappé à la mort, surgi sous la forme d'une bombe qui aurait dû lui éclater sous le ventre. Le coup manqué n'avait pas retenu mon attention. Et l'on voit de bien autres faits divers au passif des empereurs, régents et rois, des ministres, des députés, des présidents et des reines de nos palais d'Europe. René Leys est surpris de mon peu d'intérêt. Savez-vous qui a découvert l'engin ? Non, je n'en sais rien. Personne n'en sait rien. J'ai lu dans les journaux que la police informe et croit tenir les coupables. On ne saura donc jamais rien. La police. Et René Leys prononce le mot avec un mépris tout parisien. La police est arrivée trop tard aussi. C'était déjà découvert. Je prête un peu l'oreille. Mon professeur se déciderait enfin à m'apprendre un peu plus que ne m'en ont enseigné les journaux. C'est découvert d'aujourd'hui par les agents particuliers du palais. Il y a donc une police secrète ? J'ai interrompu avec une candeur affectée. Je sais fort bien qu'il y a une police secrète. Maître Wang me l'a affirmé. À travers lui, elle m'a semblé peu agissante, anodine et très peu payée. C'est par elle qu'on a découvert la bombe ? Sans demander rien, j'apprends tout. La bombe, un engin énorme et capable de broyer 10 ponts, tous en pierre, comme celui de Heumen. Cette bombe était munie de fils électriques, conduisant presque à l'intérieur du palais, au pied du mur qui entoure les lacs. Quelqu'un a vu les fils, les a coupés d'abord et a sifflé ensuite. Oui, comme cela. René Leys sifflote confidentiellement un motif à 2 tons, celui de nos pompiers de France, quand ils passent à toute allure pour sauver une vieille femme en écrasant tous les passants. C'est l'appel des policiers secrets. Ils étaient disséminés sur le parcours du régent. Ils sont accourus et ont suivi les fils, mais pas à temps pour trouver l'homme qui devait donner le contact. Alors, ils ont fait emporter la bombe par un coulis. On l'a examinée. Certaines pièces étaient des estampilles japonaises, mais les vis les plus dangereuses sortaient d'une quincaillerie de Peking. Les journaux n'ont pas publié ces détails. Enfin, qui a découvert l'engin et donné l'alarme ? René Leys hésite un peu. Il fait si noir que je ne le vois pas rougir. Je suis sûr qu'il rougit dans l'ombre. C'est une chanteuse de Tianmenwai. Que pouvait-elle bien chanter là, à cette heure plutôt matinale, à une lieue nord de son précieux lupanard? René Leiss explique point par point. Elle aussi fait partie de la police secrète. Ayant appris qu'un attentat se préparait, elle avait devancé les policiers mâles. C'est tout simple. Du coup, elle a reçu par ordre de haut lieu 5000 taels d'argent qu'elle a immédiatement placé dans une banque chinoise dont elle reçoit 2% d'intérêt mensuel. Mais elle a d'abord remis à neuf le mobilier un peu démodé de sa chambre. Ce doit être une excellente femme d'intérieur. Pourrait-on, temporairement... René Leiss reprend un air pudique. Oh, pas tout le monde. Mais nous pourrons y aller ensemble, si vous le voulez. Pourquoi pas ce soir? Ce soir? Coupe nettement René Leiss. Impossible. En effet, il semble là, nerveux, peu sûr de lui. Je ferais bien d'abréger cette soirée et de l'envoyer coucher. Et moi-même. Il n'en veut rien faire. Il insiste pour demeurer ainsi, allongé sous les étoiles. Le moment est encore très confidentiel. Je reviens donc tourner comme un vampire alentour de mon héros triplement emmuré, par sa vie, par son rêve, par sa mort. Dites-moi, je vous prie, comment était-il de son vivant? J'ai lu tant de sottises sur lui. Un rédacteur de gazette locale le peignait un alangui baudelairien désabusé. Je vous l'affirme. René Leiss, qui ne semble point connaître Baudelaire, répond avec des mots précis, des mots qui font touche d'or et s'incrustent dans la mosaïque à fond noir des cieux, du ciel où règnent les régents défunts, des mots qui peu à peu dessinent le plus beau portrait qu'on livrera jamais de celui qui régna durant la période Guangxiu. Un enfant très intelligent et très doux à l'âge d'un homme, un savoir de vieillard qui ne se souviendrait pas d'être vieux, parfois uniquement préoccupé de femmes, de ses femmes, des princesses ou des suivantes qu'il appelait à son gré, ou que la vieille douairière, sa tante, qu'il nommait « mère vénérée », lui préparait. Oui, très intelligent, très affaibli, sauf aux premières heures du jour. Il aimait la poésie. Il caressait élégamment, du bout du pinceau, le papier tendre. Ceci prononcé dans un rythme de citation chinoise. Il aimait aussi la musique. René Leiss s'interrompt. Le mot « musique » ne lui semble pas suffire à exprimer ce qu'il veut. Et il n'en trouve pas d'autre. Ou plutôt, il aimait à écouter ce qu'on effleure, un gong que l'on touche sans frapper. Il l'en pâmait. Il fallait le soutenir. Il demandait à voix basse qu'on le touchât de nouveau. Et quand le gong avait fini de vibrer, il écoutait jusqu'au bout du silence et pleurait alors à sanglots. Je l'ai vu regarder sans rien dire une peau de tambour. René Leiss accorde à ses souvenirs une trêve mélancolique. D'autre part, je perçois, à peine, le son de fer et de cuivre et d'étain étouffé de la grosse cloche boumant ses doubles veilles tout au nord, tout au centre de l'antique cité défunte mongole. Son cou est sourd et noble, ayant passé sur les toits du palais et venant de loin. René Leiss s'achève. Enfin, il est mort. Oui, et j'y reviens malgré moi. Enfin, comment est-il mort? Un temps. René Leiss va-t-il me... Peu importe, il est mort sans un ami auprès de lui. C'est vrai. Dans ma curiosité historique, passionnée cependant, je mettais ce seul point qui m'est rappelé. Cet enfant doux et douloureux est mort, de poison ou de rêve. Il importe peu, en effet. Il est mort au milieu de nuques et de femmes, sous les yeux terriblement maternels de l'impériale vieillarde, veillant son dernier geste, et, j'oubliais, sans un ami auprès de lui. René Leys est bienvenu à dire là ce qui n'avait pas été dit. Je reprends. C'est vrai, mais avait-il un ami à lui, un seul ami? Car il pouvait se rencontrer un prince ou un cocher, ou un fonctionnaire, ou un garde, un fidèle, à l'image des grands serviteurs d'autrefois, servant le ciel en la personne de son descendant. Oui, dit simplement René Leys, j'étais son ami. En effet, quand un être comme René Leys en dépeint un autre, sous les couleurs et dans les contours animiques du portrait que je viens d'écrire sous ces mots, ces êtres ne peuvent que se détester ou s'aimer, jusqu'à la détresse ou la passion. René Leys aimait donc, d'une jeune amitié, cet empereur jeune et dolent, cet abandonné. Et lui-même est très jeune et dolent, dès qu'on ne le voit plus en pleine action physique. Mais alors, comment l'a-t-il connu? Dites-moi, comment l'avez-vous connu, votre ami? Comment êtes-vous entré pour la première fois au palais? Qui vous y a introduit, au palais? Je n'ai pas conscience de mon indiscrétion. Aucun aveu ne serait trop grave pour le respect dont je l'accueillerais. Si l'on a bien entendu ce qui précède, rien ne saurait être déplacé, si ce n'est le ton sec et tout à coup fermé avec lequel Leys me ferme la bouche. Comment j'y suis entré? Ah, c'est mon affaire. Entendu, je n'insiste pas. Je me retiens avec peine de l'envoyer se coucher pour tout de bon. Croit-il que je veuille m'emparer de sa recette? Je vais donc me retirer. Quand on frappe au portail, une main chinoise secoue en guise de marteau les loquets de cuivre pendeloques. Mon portier ne se réveille pas. René Leys est, bien avant moi, debout et, à travers les vantaux, parlemente. J'arrive, il a ouvert. « C'est pour moi, » dit-il du même ton bref, en fourrant dans sa poche un mouchoir de soie blême qu'on vient certainement de lui remettre. Et, le temps de prendre son chapeau, très européen celui-là, melon, je crois, sans me dire s'il reviendra, ni quand, il est parti, au trot de la mule d'un beau grand char qui l'attendait, tourne le coin de la ruelle et disparaît. Il fait maintenant presque jour. J'achève de noter, dans une précision insomnieuse, ceci, qui me déconcerte jusqu'au dépit, ou me plaît bien mieux que tout ce qui précède.